Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 2 concernant le salut. Et c'est la deuxième partie de notre étude. Quelles sont les vérités fondamentales de la foi ? Au cours de ces 20 dernières années, ceux d'entre nous qui sont plus âgés ont vu se produire plusieurs changements dans le monde des églises chrétiennes. Des changements dans les formes du culte, des changements dans les méthodes d'évangélisation, des changements dans l'accentuation mise sur certains enseignements et même des changements dans les Bibles que nous utilisons pour les uns tous les jours. Bien entendu, nous avons chacun droit à nos opinions à propos de ces changements. Mais dès qu'une personne exprime une opinion, une possibilité de division se présente. En fait, je ne doute pas que si je devais exprimer mon opinion, alors immédiatement des lettres de protestation me parviendraient de la part de ceux qui me désapprouveraient. Il est peu probable que la véritable unité puisse se trouver si tout le monde garde le silence. Mais il y a une question plus importante au milieu de tous ces changements, ne négligeons-nous pas les fondements, les vérités fondamentales de notre foi chrétienne? Peut-être serait-il utile de prendre un court instant pour définir ces vérités, car je trouve que de nombreux chrétiens aujourd'hui sont assez peu sûrs quant à savoir ce qu'ils sont. La clarté dans ce domaine pourrait nous préserver des erreurs vers lesquelles certains de ces changements nous mènent. La Bible nous dit au psaume 11, verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ?» Chers amis, quelles sont donc les vérités fondamentales de la foi? Je ne prétends aucunement à l'infaillibilité en cette matière, mais je suggère que les points suivants méritent notre considération. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Premièrement, que croyons-nous vraiment? Par exemple, que croyons-nous à propos des Saintes Écritures? Les Saintes Écritures contiennent toutes les choses nécessaires au salut. Elles sont la révélation finale et complète du Dieu Tout-Puissant pour l'homme. Deuxièmement, que croyons-nous à propos de l'homme? L'homme, dans son état naturel, est coupable et il est perdu et impuissant. Il n'a ni la volonté ni la capacité de vivre d'une façon qui puisse plaire à Dieu. Il est perdu et spirituellement mort. Troisièmement, que croyons-nous à propos de notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ est la sainte parole du Père, n'oublions jamais cela, engendré de toute éternité. Et c'est en lui la divinité et l'humanité ont été réunies en une seule personne. Selon l'Écriture sainte, Christ est mort pour nos péchés, il fut enseveli, et le troisième jour il ressuscita. Quatrièmement, que croyons-nous à propos du salut? L'homme est considéré comme juste devant Dieu, mais uniquement à cause de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette nouvelle position est une faveur non méritée que Dieu nous fait et qui permet aux pécheurs de se repentir et de croire à l'Évangile. Cinquièmement, que croyons-nous à propos des bonnes œuvres? Ceux qui se sont véritablement repentis de leurs péchés et qui placent leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ veilleront à accomplir de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas du tout dans le but, il faut bien le comprendre, mais vraiment pas du tout dans le but d'atteindre un état de salut, mais uniquement parce que la présence du Saint-Esprit leur en donne le désir et la capacité de le faire. Voyons maintenant ce que nous croyons. Premièrement, nous croyons que la Sainte Bible est la Sainte Parole inhérente et qu'elle est divinement inspirée par Dieu. Elle est la révélation de sa pensée et de sa volonté. Et sa volonté qui est pour l'homme, donc elle sera notre guide infaillible et suffisant pour le salut et pour la vie chrétienne. Et là, vous pouvez noter tous les versets bibliques qui sont importants. Car dire n'importe quoi, c'est une chose, mais pouvoir tout confirmer par les Saintes Écritures en est une autre. Alors notez 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Psaume 119, verset 105. Et Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Deuxièmement, nous croyons en un Dieu, le Créateur de tout, existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Troisièmement, nous croyons en la divinité du Seigneur Jésus-Christ et qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme engendré par le Saint-Esprit, né d'une vierge et qu'il a une humanité parfaite et sans péché. Saint Jean chapitre 1 verset 1, ainsi que Philippiens chapitre 2 verset 6, Saint Matthieu chapitre 1 verset 23 à 25, sans oublier la première épître de Saint Jean chapitre 3 verset 5. Quatrièmement, nous croyons en la dépravation totale de la nature humaine de par sa chute dans le jardin d'Éden. Et nous croyons dans l'incapacité totale de l'homme de se sauver du châtiment éternel par lui-même, c'est-à-dire par ses propres œuvres. Genèse chapitre 3 verset... Oui, Genèse chapitre 3... ainsi que Romains chapitre 3 verset 23 et Éphésiens chapitre 2 verset 8 et 9. Cinquièmement, nous croyons en la résurrection corporelle des justes et des injustes et en la béatitude éternelle des rachetés. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Et dans le châtiment également éternel et conscient des perdus. Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15. Sixièmement, nous croyons en l'œuvre accomplie une fois pour toutes de Christ sur la croix du Calvaire, le sacrifice au travers duquel Christ a effectué une rédemption complète et éternelle. Dieu ayant mis son sceau d'approbation sur l'œuvre de Christ en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux, et qu'il est le chef de l'Église, le Seigneur de tous, et le souverain sacrificateur de la maison de Dieu, ainsi que l'avocat de la famille de Dieu. Septièmement, nous croyons au salut immédiat et éternel de toute personne qui croit véritablement en Christ et qui, par la foi, s'appuie sur l'œuvre complète de Christ comme étant le seul fondement valable par lequel un Dieu saint peut pardonner ses péchés. Huitièmement, nous croyons que tous ceux qui, par la foi, reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur sont nés de nouveau par le Saint-Esprit, qu'ils sont habités par le Saint-Esprit s'ils le lui demandent de tout leur cœur, et qu'ils sont baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ qui est l'Église, dont il est le chef ressuscité et élevé. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 14, Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23, Colossiens, chapitre 1, verset 18, Saint-Luc, chapitre 11, versets 9 à 13, Saint-Jean, chapitre 4, verset 10, Actes des apôtres, chapitre 8, verset 14 à 19, ainsi que le chapitre 9, verset 17, et encore le chapitre 19, verset 1 à 6. Neuvièmement, nous croyons au don du Saint-Esprit et au ministère établi par Dieu dans l'Église, à la sanctification voulue par Dieu de la vie et de la conduite, ainsi que à la délivrance de la maladie par la guérison divine. Et nous croyons également à la fraction du pain et au partage de la coupe dans la Sainte Cène. Nous croyons au salut et au bonheur éternel de tous les croyants sauvés par Jésus-Christ et au châtiment éternel de tous ceux dont les noms ne sont pas du tout trouvé inscrit dans le livre de la vie. Et là, vous pouvez noter 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 14, Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 13, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, Hébreux, chapitre 12, verset 14. Psaume, le chapitre 103, verset 3. Saint Marc, chapitre 16, verset 15 à 18. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 41 et 42. Et 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 32. Dixièmement, nous croyons à la nouvelle création, une création éternelle et glorieuse qui sera composée des nouveaux cieux et de la nouvelle terre autour de Christ et de son Église glorifiée dans laquelle Dieu sera tout en tous. Et là, vous pouvez noter 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28, et Apocalypse, Révélation, Apocalypse, chapitre 21 et le chapitre 22. Et pour terminer, onzièmement, nous croyons, en attendant la réunion des élus, lors de l'avènement du Seigneur, nous croyons au rassemblement et à la formation du corps de Christ qui sera composé de tous ceux qui, nés de nouveau, sont scellés et baptisés dans le Saint-Esprit pour former un seul corps qui sera l'épouse de Christ. Au-delà des titres dénominationnels et des diverses traditions ecclésiastes. Chers amis, cela était donc la deuxième partie, beaucoup plus courte, et je vous mets un ou deux chants du passé qu'il y a plus de 40 ans, quand j'avais construit une mission sur cassette. Alors donc, essayons de voir si ces cassettes donnent encore un petit peu du son audible. Ce n'est pas toujours certain. On va voir cela. Et à bientôt à nouveau pour la prochaine série importante sur le salut, sur l'importance du salut. À tout à l'heure donc. Au revoir mes très chers amis.
Soit ta Thank you.